Vous écoutez RFI, les 4h à Paris, 3h en temps universel.
Christophe Drevet.
À la une de l'actualité, cinquième jour de manifestation en Turquie après l'arrestation du leader de l'opposition, Ekrem İmamoğlu. Ses partisans rejettent son incarcération pour corruption et le désignent malgré tout comme leur candidat pour la présidentielle de 2028. Le début des pourparlers pour une trêve en Ukraine, ils ont débuté en Arabie Saoudite entre délégations américaines et ukrainiennes. Mais le point fort a lieu ce lundi entre émissaires américains et russes. Des pourparlers qui s'annoncent difficiles selon Moscou. Et puis la multiplication des saisies de stupéfiants par les autorités françaises. Une augmentation de 130% a été constatée en 2024 avec 110 tonnes de différents produits saisis. Éléments d'explication sur cette hausse vertigineuse à la fin de ce journal. Cinquième soir de manifestation en Turquie ce dimanche, une soirée qui était très attendue car Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et principal opposant au président Erdogan, a été incarcéré pour corruption ce dimanche matin, cela après 4 jours de garde à vue. Il a aussi été démis de ses fonctions. Son parti, le Parti Républicain du Peuple, CHP, organisait par ailleurs ce dimanche une primaire pour le désigner comme son candidat à la prochaine présidentielle en 2028, une primaire qui a mobilisé massivement comme le rassemblement organisé dans la soirée devant la mairie d'Istanbul. Pour l'opposition, l'enjeu est de maintenir la pression sur le président Erdogan. Sur place à Istanbul, Anand Lower.
Halshe Çok Güzel Olacak, tout ira très bien. Depuis son élection en 2019, c'est le cri de ralliement des partisans d'Ekrem İmamoğlu. Au soir de son incarcération, ils sont encore des dizaines de milliers à le crier devant la mairie. Un cri d'espoir et pourtant, Merve, une jeune femme aux cheveux violets, n'a pas le moral.
Je n'ai pas d'espoir car nous sommes face à une décision profondément illégale. La Turquie court vers la dictature. C'est le visage de notre pays qu'Erdogan donne au monde actuellement. C'est une raison de plus pour moi d'être en colère contre lui.
Our, un étudiant qui cache son visage sous une écharpe et des lunettes noires, refuse au contraire de se laisser abattre.
Tant que nous restons unis, personne ne peut nous briser. Ce que l'opposition doit faire, c'est ne surtout pas laisser tomber Ekrem İmamoğlu comme elle a laissé tomber d'autres figures de l'opposition emprisonnées avant lui. Si on ne le lâche pas, tôt ou tard, le gouvernement démissionnera.
Mutlu Yıldırım est vice-président de la branche jeunesse du CHP à Istanbul, le parti d'Ekrem İmamoğlu. Pour lui, il n'y a pas 36 solutions.
Tant que notre voix n'aura pas été entendue, tant que nous n'aurons pas récupéré nos droits, nous n'irons nulle part. Nous serons ici tous les soirs et nous finirons par ramener notre président Ekrem à la mairie.
Le pouvoir, lui, espère sans doute que la colère va retomber, que son opposition finira par se diviser. Devant la mairie d'Istanbul, sous le portrait géant d'Ekrem İmamoğlu, ils se sont promis le contraire. Anand Lower, Istanbul, RFI.
Ajoutons dans ce contexte que les autorités turques ont demandé la fermeture des comptes X de 700 opposants. Au Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur Gaza. Elles auraient tué un nouveau responsable du Hamas dans un hôpital de Khan Younes. Mais elles continuent de tuer de nombreux civils aussi. 500 personnes sont mortes en 5 jours et plus de 50 000 depuis le début de la guerre, selon le Hamas. Sur le plan intérieur en Israël, le gouvernement a voté ce dimanche à l'unanimité en faveur d'un processus de destitution de la procureure générale du pays. Cette dernière, très critique à l'encontre de la politique de Benjamin Netanyahou, s'oppose notamment à sa décision de limoger le chef de la sécurité intérieure, Ronen Bar. Ce lundi marque le début des pourparlers américano-russes sur une éventuelle trêve entre l'Ukraine et la Russie. Des discussions sous l'égide des États-Unis, en Arabie Saoudite. Elles ont débuté ce dimanche entre délégations américaines et ukrainiennes. La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est actuellement contrôlée par Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. Cette centrale fera-t-elle partie des négociations sur un cessez-le-feu? Qui en prendra le contrôle? Les États-Unis se sont proposés et certains Ukrainiens pensent que ce ne serait pas forcément une mauvaise idée, à l'image de cet habitant d'Odessa de 24 ans, Klim Kolesnik. Il est interrogé par Kristina Petkova.
En Ukraine, toutes les ressources, y compris l'énergie et les minerais, sont contrôlées par les oligarques. La centrale de Zaporijjia appartient à l'État, mais l'électricité est gérée par la société privée DETEC. Donc, pour les gens, cela ne changera rien si elle passe sous gestion des États-Unis. Au contraire, cela pourrait être utile, car il faut reconstruire la centrale après l'occupation russe et la destruction du barrage de Kharkovka qui fournissait l'eau aux 6 réacteurs. Aujourd'hui, Il n'y a assez d'eau que pour deux réacteurs. Que ce soit les Américains ou les oligarques ukrainiens qui contrôlent ces richesses, la seule différence pour nous sera que Washington voudra protéger ses investissements. Peut-être que ce serait même mieux si la centrale devenait américaine, surtout qu'aujourd'hui, elle est sous contrôle de Moscou.
RFI, 4h05 à Paris et à Alger, un signe d'apaisement dans les fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, un signe venu du président algérien. Samedi soir, lors d'une longue interview à la télévision nationale, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son unique point de repère était le président Macron. Le chef de l'État algérien estime que le contentieux entre les deux pays a été créé de toutes pièces. Sans jamais citer toutefois le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il a ajouté qu'en cas de tension diplomatique, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui doivent régler les problèmes. Pour Brahim Oumansour, chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, le respect mutuel entre les deux pays et le retour à des canaux diplomatiques de haut niveau sont essentiels. Il est au micro de Guillaume Thibault.
Il y a un signe, en tout cas, d'ouverture vers le dialogue et un appel, surtout, à discuter, à traiter cette crise que je considère la plus grave entre les deux pays via les canaux diplomatiques. Et je crois que c'est ça, peut-être, la condition qui a été fixée par le président algérien pour éviter le pire, éviter une rupture qui n'est pas souhaitable des deux côtés de la Méditerranée dans un environnement très instable et marqué par des tensions entre Alger et Rabat et puis l'instabilité au Sahel. Mais il y a aussi des enjeux sécuritaires au niveau de la Méditerranée, trafic de drogue, terrorisme. Tous ces enjeux communs imposent aux deux pays de maintenir une coopération, de dépasser les tensions. Tous ces différents sujets imposent bien évidemment à ces deux États de poursuivre le dialogue avec le respect mutuel.
La France, où plus de 110 tonnes de produits stupéfiants ont été saisies par les douanes en 2024, dont 21 tonnes de cocaïne, un chiffre qui grimpe à 53 tonnes si l'on tient compte des saisies effectuées également par la police, la gendarmerie et la marine française, une augmentation vertigineuse de 130% par rapport à l'année précédente. Comment expliquer une telle hausse des saisies ? Élément de réponse avec Rebecca Arondel.
Il y a d'abord l'augmentation des flux à l'échelle mondiale. La Colombie, principal pays exportateur de poudre blanche, n'a jamais autant produit. En parallèle, les consommateurs sont de plus en plus nombreux en France. Ils étaient 1 million en 2024, un chiffre qui a doublé par rapport à 2023, selon l'OFDT, l'Office français des drogues et des tendances addictives. Conséquence, davantage de cocaïne arrive dans les ports français. Il y a 3 semaines, une cargaison de 10 tonnes a été interceptée au port de Dunkerque, dans le nord du pays. Une quantité qui représente à elle seule 20% des saisies de cocaïne réalisées sur l'ensemble de l'année 2024 en France. Mais ces quantités interceptées ne représentent qu'une partie visible de l'iceberg. En réalité, une grande partie des conteneurs échappe au contrôle, faute de personnel dans les ports, mais aussi parce que les trafiquants sont plus imprévisibles. Ils ciblent davantage des petits ports moins contrôlés, comme Sète, dans le sud de la France. Pour lutter contre ce phénomène grandissant, l'Assemblée nationale votera mardi une proposition de loi pour mieux lutter contre le narcotrafic.
On parle football à présent avec ce rêve fou, celui de la Nouvelle-Calédonie qui dispute ce lundi matin à 6h, temps universel, à Auckland, le match le plus important de son histoire. En cas de succès contre la Nouvelle-Zélande, les Kagous décrocheraient en effet leur qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce serait la toute première de leur histoire. Le défi est immense face à l'ogre de la zone Océanie, lequel vient d'écraser les Fidji 7-0, mais les Calédoniens abordent ce match sans aucune pression, comme le raconte leur sélectionneur Johan Sidaner.
Une motivation qui vient d'elle-même, puisque dans un contexte comme celui-ci et dans le rôle dans lequel nous sommes, il n'y a pas de stress. Nous les avons vus contre Fidji, effectivement. Nous avons eu 2 jours pour préparer ce match et mettre une stratégie en place. Il n'y a pas de recette miracle. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire. On joue ensemble depuis quelques matchs maintenant et on va s'appuyer sur les bonnes fondations qu'on a posées dernièrement.
Et puis en cas de défaite, la Nouvelle-Calédonie se verrait offrir une nouvelle chance de se hisser au Mondial 2026 via des barrages. Et puis un mot des quarts de finale de retour de la Ligue des Nations. La France s'est qualifiée face à la Croatie. Qualification également de l'Espagne, de l'Allemagne et du Portugal.